Métro Châtelet, tu es à l'ouest.
Bon voyage, messieurs, dames, merci pour la musique, excusez-moi pour le dérange. Bon voyage.
Vigipirate.
France Culture se fait l'écho du forum Le Monde Le Banc qui s'est tenu au Mans les 15, 16 et 17 novembre dernier sur le thème « Repousser les frontières ».
Et nous interpellerons tous ceux qui auront un comportement.
Préfecture, police, Roissy.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau.
Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête, et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée.
Neuvième et dernière émission, aujourd'hui un dialogue entre Jean-Claude Milner, linguiste et philosophe, et Jacques Rancière, philosophe.
Aujourd'hui, nous sommes très très ravis, c'est vraiment un événement d'avoir à une même table, et pour la première fois depuis longtemps je crois, Jean-Claude Milner et Jacques Rancière, qui vont donc dialoguer ensemble. Et le but n'est pas du tout d'animer, d'organiser une sorte de pugilat ou de débat dur, mais juste de permettre une forme d'explication parce qu'il y a entre eux une controverse parfois explicite, parfois souterraine, qui est passionnante, et je pense que vous allez vous en apercevoir. Je vais vous les présenter tous les deux assez rapidement en disant que ce sont deux figures majeures de la scène intellectuelle et philosophique française, deux figures très originales, deux figures qui appartiennent aussi à une même génération. Je crois que vous avez un an d'écart. En gros, vous avez une vingtaine d'années en 68, c'est le marqueur générationnel important. Deux membres de cette drôle de tribu que certains ont appelé les lacano-maoïstes. Alain Badiou, vous avez entendu l'année dernière, est un autre de ces membres. Benny Lévy, Jacques-Alain Miller, Christian Jambet, qui est venu aussi ici, Bernard Sicher sont d'autres membres de cette petite et drôle de tribu lacano-maoïste qui souvent considèrent les mots comme... des pistolets chargés, selon la belle formule bien connue, et qui tous ont été marqués donc par les formules de Mao et par les sentences du psychanalyste Jacques Lacan, sans oublier d'ailleurs les élaborations théoriques du philosophe marxiste Louis Althusser. Autre point commun qui réunit Jean-Claude Milner et Jacques Rancière, ce sont deux philosophes écrivains qui s'inscrivent dans la grande tradition du philosophe écrivain à la française. Deux figures pour qui il n'y a pas de pensée sans prose, pas de savoir sans style, et qui en permanence, non seulement dans leur écriture, dans la forme de leur écriture, mais aussi sur le fond, convoquent la littérature, mobilisent la littérature, mettent en branle les écrivains et la littérature et la poésie. Alors, beaucoup de choses en commun. Aujourd'hui, beaucoup de choses aussi qui les séparent intellectuellement et politiquement. Les années ont passé, les différents ont pu s'installer. Pas seulement les différences. Et avant de rentrer plus avant dans ce débat, je voudrais juste le résumer d'une façon un peu, pas brutale, mais à nouveau schématique, en disant que Jacques Rancière a publié en 2005, donc, un bref essai assez polémique, très fort, très, très bien écrit, et un des rares essais comme ça sous votre plume qu'on sent écrit un peu sous l'impulsion et l'élan d'une forme de révolte ou même de colère. Cet essai a eu beaucoup d'écho, un grand rayonnement. Il s'appelle « La haine de la démocratie ». Il est paru aux éditions La Fabrique. Et dans ce livre, il y a une page tout à fait étonnante, voire sidérante, Jacques Rancière, où vous mettez ensemble deux événements, vous télescopez comme ça, vous rassemblez deux événements qui sont pour vous emblématiques de ce que vous appelez donc une nouvelle haine de la démocratie qui, selon vous, deviendrait de plus en plus forte chez des intellectuels en vue. Et ces deux événements, ce sont l'invasion de l'Irak par... les bombardements et la guerre en Irak menée par les États-Unis, d'un côté, donc, et d'un autre côté, la parution d'un livre de Jean-Claude Milner. Alors, c'est intéressant. C'est page 15 de ce livre. Je veux juste vous lire ces quelques lignes. « Tandis que les armées américaines œuvraient à l'expansion démocratique en Irak, un livre paraissait en France qui mettait la question de la démocratie au Moyen-Orient sous un tout autre jour. Il s'appelait « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Et ce livre-là était paru donc 2 ans auparavant. Il est signé donc Jean-Claude Milner. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite de ce livre, mais en gros, il expliquait, il explique toujours que l'Europe est obsédée désormais par la paix, qu'elle ne veut plus, elle a renoncé à toute forme de souveraineté, en tout cas toute forme de souveraineté guerrière, et notamment que l'Europe est au régime de l'illimité, comme le dit Jean-Claude Milner, c'est-à-dire que l'Europe ne veut plus entendre parler justement de frontières. Donc peut-être qu'on va commencer par là, Jacques Rancière. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ce livre de Jean-Claude Milner représentait quelque chose comme ça d'emblématique pour cette nouvelle haine de la démocratie, comme vous l'appelez?
Emblématique. Bon, ce que je vais montrer comme emblématique pour moi, mais évidemment, c'est que, bon, à l'époque, à la même époque où il y a une grande puissance qui envoie des armées pour, disons, donc, en Irak, avec l'argument d'aller y établir la démocratie contre un tyran, quoi. Bon, en même temps, effectivement, bon, paraissait ce livre qui, brutalement, disait, bon, mais la démocratie, c'est pas bien, quoi. Ce livre-là était un peu emblématique de tout un courant qui avait commencé à s'installer en France dans les années 80. À l'époque où tout le monde disait, avec la fin de l'Union soviétique, mais ça y est, c'est fini, la démocratie universelle va arriver, quoi. Et en même temps, je dirais, après, en même temps, on a vu se développer tout un courant de pensée, disons, mais vous n'y pensez pas, la démocratie, c'est ce qu'il y a de pire. Bon, c'est le règne de l'illimité. Enfin, on reparlera de l'illimité. Là, pour l'instant, j'en parle que de manière très, très grossière. On introduit les choses, hein. Donc, c'est le règne des individus au désir et au désir illimité. Ça ne peut mener qu'à la catastrophe. Voilà, on a eu ce courant qui s'est un petit peu bon installé, qui a nourri beaucoup de livres pouvant assez faibles, quoi. Et ce qui m'a intéressé dans le cas de Jean-Claude Milner, c'est qu'il y avait une argumentation forte, disons, mise au service de cette cause qui habituellement, disons, était défendue par des arguments faibles, quoi. Voilà, donc ça me paraissait intéressant finalement qu'à un moment donné, tout d'un coup, les choses éclatent. C'est-à-dire pendant très très longtemps, il y a eu cette espèce de consensus sur bon la démocratie, bon c'est pas si bien, mais c'est quand même comme on sait le meilleur des mauvais régimes. Ou le pire des bons. Et puis, il y a eu ce moment où tout d'un coup, il y a eu cette vraiment émergence d'une pensée très, très insistante, disant que les grands fonds. Les grands maux dont nous souffrons, les grands maux même dont le siècle avait souffert, étaient des maux qui étaient liés au nom même de démocratie. Donc voilà, c'est juste pour introduire un petit peu la conjoncture dans laquelle j'ai écrit ce livre.
Parce que juste pour préciser, la question de la limite ou de la frontière dans cet argumentaire-là est assez centrale. Est-ce que vous pourriez la resituer ?
Pour moi, il y a eu effectivement toute une critique de la démocratie, disant bon, la démocratie, c'est l'illimité. Et dans la mesure où c'est l'illimité, c'est en quelque sorte l'équivalent du capitalisme.
Par exemple, la démocratie sans frontières, par exemple.
Non, c'est pas simplement la démocratie sans frontières. Il y a eu, bon, ce courant disant, en gros, la démocratie, c'est l'illimité. En particulier, c'est l'illimité des désirs, quoi. Bon, là, ça, c'est un thème, pour dire qui a circulé un peu, depuis le 19e siècle. Bon, représentant la société moderne comme habitée par la démocratie, c'est-à-dire, habitée par l'illimité des désirs. Autrement dit, il y a eu un moment donné où on est passé d'une idée de la démocratie comme régime politique à une idée de la démocratie comme véritablement une forme de vie, quoi. Il y a eu une la grande époque marxiste, où lorsque les gens critiquaient la démocratie, ils critiquaient les institutions démocratiques en disant c'est le masque de quelque chose qui se joue derrière. Mais en fond, d'une certaine façon, il y a eu une époque où on s'en prenait aux institutions de la démocratie, où il y avait des gens qui disaient mais c'est pas un bon système, ça marche pas, mais toujours en se référant, pour dire, aux formes, bon, en gros, aux formes constitutionnelles, aux formes de l'État, quoi. Or, il y a eu ce moment où on a déclaré que la démocratie, c'était d'abord, au fond, une forme de société. C'était d'abord une forme de société, et notamment une forme de société marquée par une sorte de tendance à l'illimitation, qui est d'abord l'illimitation des désirs des individus. Bon, alors ça s'est développé beaucoup dans les années 80 avec le thème de l'individu narcissique, et c'est la catastrophe parce que l'individu narcissique ne poursuit que ses désirs, il s'occupe plus du bien commun. Voilà, alors Jean-Claude Milner, on peut dire d'une certaine façon, a interprété ces thèmes d'un point de vue plus particulier, mais c'est pas à moi de le résumer, quoi, qui était toute une discussion sur la question du tout, des tout limités et des tout illimités. Mais bon, c'est pas à moi de résumer sa pensée.
Merci beaucoup. Alors Jean-Claude Milner, est-ce que vraiment l'objet de votre livre était de dire la démocratie, c'est pas bien ?
Je rappelle que dans mon titre, je parlais de l'Europe. Et par voie de conséquence, il ne faudrait pas considérer que ce soit un livre sur la démocratie en général. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je m'appuierai sur ce remarque que vient de faire Jacques Rancière, il est tout à fait vrai que concernant le terme de démocratie ou le nom de démocratie, il s'est opéré un passage. Pendant toute une période, la démocratie faisait partie de la liste en quelque sorte canonique des trois régimes institutionnels, en vérité, trois régimes politiques institutionnels, la monarchie, l'oligarchie et la démocratie. Et puis, effectivement, à partir d'un certain moment, on s'est penché sur quelque chose qui se passait du côté de la société. Et je dirais que la première manifestation, ce déplacement, vous la trouvez chez Balzac. Chez Balzac, la société moderne, celle qu'on voit à Paris, si j'ose dire, à la ville de Paris, c'est une société qui est au régime de l'illimitation des demandes, de l'illimitation des besoins, de l'illimitation des désirs, et aussi de l'illimitation urbaine. Cette société-là, Balzac considérait qu'il ne fallait surtout pas qu'elle reçoive une traduction politique qui lui convienne en tant que société. Et c'est pour cela que Balzac est réactionnaire en politique. Il considère que la politique, le grand homme politique de son temps, à ses yeux, c'est Metternich. Autrement dit, on peut considérer qu'à partir d'un certain moment, le concept, le nom de l'illimitation dans la société est peu à peu devenu le nom de démocratie. Et le passage, ce n'est pas du tout le cas chez Balzac. Chez Balzac, il y a la société d'un côté et l'expression, la forme politique qui, à ses yeux, ne doit pas l'exprimer. Le deuxième temps, et je fais référence à ce nom parce que aussi parce que Jacques Rancière y fait référence à mon propos. Le deuxième temps, c'est Tocqueville. Pour Tocqueville, la démocratie en Amérique est effectivement d'abord la formation d'une société à laquelle va correspondre de plus en plus une forme politique. Et cette forme politique, à ses yeux, n'avait pas encore existé, elle n'avait encore existé nulle part. La démocratie antique n'était pas du tout de cette nature-là. Et ce qui naît, c'est une nouvelle forme de démocratie qui est la contrepartie politique d'une société, elle-même illimitée. Et sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic de Jacques Rancière. Il est clair que la critique de la démocratie comme forme politique a eu comme successeur la critique de la démocratie comme forme politique, mais comme forme politique répondant à une société, ce qui, évidemment, change la donne. Et je ne crois pas sur ce point-là, peut-être que j'ai quelques traits d'originalité, mais je ne prétends pas être original. Ceux qui se sont présentés comme les défenseurs de la démocratie à partir d'une certaine période l'ont défendu très largement, non pas au nom d'institutions formelles, mais au nom du fait que c'était la forme politique la moins éloignée, celle qui répondait le plus fidèlement à une société en train de se constituer. Et pourquoi, on reprend l'expression de Churchill, pourquoi c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres? C'est le pire des régimes parce que ces institutions sont, en tant qu'institutions, nécessairement inadéquates, parce que tout système d'institutions, là je me place du point de vue de Churchill, est inadéquat dans son rapport à la réalité sociale, mais c'est le moins inadéquat parce que par rapport à une société qui est en train de se constituer sur la base du marché mondial, de la libre circulation des biens et des personnes, les institutions démocratiques héritées sont les moins inadéquates. Par ailleurs, il se trouve que dans les penchants criminels de l'Europe démocratique, je faisais état du fait que l'Europe démocratique n'est pas sans histoire. Elle a un passé, et en l'occurrence, on est passé d'un dispositif où les régimes démocratiques en Europe, les institutions démocratiques en Europe, n'étaient pas majoritaires, à un modèle où les institutions démocratiques sont présentées comme intrinsèquement liées au destin de l'Europe. Mais quelle est la raison que l'on donne pour cela en Europe? La raison est la suivante, c'est que seules les institutions démocratiques du type européen, somme, addition d'institutions françaises, allemandes, britanniques, etc., cette somme institutionnelle, ce dénominateur commun, en quelque sorte, va répondre à quoi? À une société qui est en train de se constituer, qui est une société fondée sur la libre circulation des biens et des personnes, premièrement, et deuxièmement, sur l'élimination de tout ce qui peut faire obstacle à la libre circulation des biens et des personnes, c'est-à-dire, effectivement, d'une part, les frontières héritées du système des États-nations, et d'autre part, les guerres. Bah, vous rappelez combien on insiste dans le couple franco-allemand sur le fait que le couple franco-allemand est là pour éviter que renaissent les guerres qui ont brisé l'Europe. Je me permets simplement de rappeler dans ce livre que l'idéal de paix européen n'est pas un idéal de paix qui tombe du ciel. Il s'oppose à quelque chose. Et ce à quoi il s'oppose, c'est quelque chose qui a mis en question la survie d'une partie de la population européenne, qu'on a appelé les Juifs d'Europe, et qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la naissance de cet idéal de paix.
Juste parce que vous avez cité très gentiment Tocqueville, Churchill et même Jacques Rancière, mais dis donc, vous faites comme si vous décriviez juste les choses dans les penchants criminels de l'Europe démocratique, qui est un livre que beaucoup ont trouvé absolument brûlant dans la forme et terrifiant sur le fond. C'était le mot terrifiant qu'avait utilisé un de mes collègues que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrick Kechichian, qui a quitté Le Monde aujourd'hui, mais qui avait chroniqué votre livre dans le journal, et le dernier mot de son article était terrifiant. Néanmoins, vous portez un jugement dans ce livre. Vous n'avez pas l'air simplement de décrire un processus que Balzac lui-même aurait repéré et que Churchill permettrait d'éclairer d'une manière ou d'une autre. Il y a à un moment donné, je crois que c'est peut-être dans un autre livre, vous dites que l'idéal d'égalité qui est au cœur de l'idéal démocratique est quelque chose qui relève un peu de l'infantilisme. Et vous avez cette formule assez dure, vous dites la seule manière d'être égal, c'est d'être égal à rien.
Je ne me rappelais pas d'avoir employé cette formule, mais pour peu importe, je vous fais confiance. L'égalité, j'en parle d'autant plus que, à une époque, Alain Badiou aimait bien faire des distributions de prix à la fin de ses livres. Et alors, il distribuait les prix parmi les gens qu'il connaissait. Alors, il y avait des prix d'excellence, des prix d'honneur, des prix de bonne conduite. Moi, j'avais généralement droit à un prix de bonne conduite. Jacques Rancière avait droit à un prix d'honneur, sinon même le prix d'excellence, non, en vérité, qui était décerné à l'élève Jacques Rancière au nom de sa passion pour l'égalité. Et cette formule m'avait toujours frappé parce que je me suis dit, mais si l'égalité est considérée du côté de la passion, alors cela veut dire que l'égalité est considérée du côté de la passivité. Et je crois qu'il y a véritablement deux abords de l'égalité. Il y a un abord qui est du côté de la passion, précisément, qui est pour moi l'égalité des grains de sable dans le désert. J'ai peut-être employé à ce propos-là l'égalité à rien, c'est-à-dire que le maximum de l'absence d'action, c'est le rien. Et puis, on peut aborder l'égalité du côté de l'actif, de l'action. Et cela, c'est une autre question. Il me semble que la conception passive de l'égalité, donc de la passion de l'égalité, au sens où Alain Badiou la repérait, que cette perception l'a emportée sur toutes les autres. À mon avis, ça n'est pas la seule, et je ne suis pas de ce côté-là.
Merci, Jacques Rancière. Alors, les grains de sable dans le désert.
Il est clair que si on parle de distribution de prix, dire que de quelqu'un qu'on le remarque pour sa passion pour l'égalité, la passion est évidemment d'abord ce qui s'oppose, non pas ce qui s'oppose à l'action, mais ce qui s'oppose à la raison. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sympathiques parce que effectivement ils aiment bien l'égalité, mais évidemment bon ça veut dire aussi que ça n'est que de la passion au sens où c'est pas où ça ne repose pas sur le concept de la chose. Bon, pour ce qui est de mon côté, bon il est clair que l'égalité je l'ai pensé d'abord comme on sait ou comme on sait pas, peu importe d'ailleurs, à partir de la théorie de l'émancipation intellectuelle de Joseph Jacotot où disons l'égalité n'est précisément pas quelque chose Joseph Jacotot, donc ancien révolutionnaire, professeur de toutes sortes de choses, exilé en Belgique dans les années 1820 et à la fin des années 1820 décrétant une chose qui était l'émancipation intellectuelle. Donc à l'époque tout le monde disait il faut instruire le peuple, pas trop vite un petit peu pour que ça marche la société quoi. Jacotot dit non il faut pas instruire le peuple, il faut dire aux gens qu'ils peuvent s'émanciper eux-mêmes. Et s'émanciper eux-mêmes en appliquant au fond l'idée d'une capacité égale. Mais justement une capacité égale qui est pas du tout quelque chose à quoi il faut arriver. C'est-à-dire que la passion pour l'égalité n'est effectivement pas la passion, comme on disait au 19e siècle, les gens qui critiquaient les socialistes disaient, mais ils veulent que les gens soient tous comme des moules sur un rocher, etc., ou que ce soit tout pareil. L'égalité est imposée dans ce cas-là. C'est, bon, j'ai toujours le point de vue que j'ai toujours soutenu concernant l'égalité, non pas du tout comme un but à atteindre, mais comme une espèce de présupposition qui elle-même n'existe que pour autant qu'on la met en acte. Donc, le concept très important que proposait Joseph Jacotot, c'est le concept de vérification de l'égalité. C'est-à-dire que l'égalité, précisément, n'existe que si on la met en acte dans un processus de vérification. Et ça, je crois que c'est ça qui est extrêmement, extrêmement important. Et c'est par rapport à ça, éventuellement, que j'ai essayé de faire quelques propositions sur la politique. Moi, je ne suis pas un théoricien de la politique, je ne suis pas un philosophe politique. J'ai beaucoup étudié la question de l'émancipation, du point de vue de l'émancipation sociale, de ce que ça a pu vouloir dire au 19e siècle, de cette théorie de l'émancipation intellectuelle, comme justement renversement à l'époque où tous les gens avaient plus ou moins des plans pour arriver à l'égalité. Jacotot disait, mais ne cherchez pas à y arriver, vous êtes sûr que si vous cherchez à y arriver, vous allez avoir des professeurs d'égalité qui vous diront, quand vous aurez bien appris la leçon, vous serez égaux, mais ça sera dans 20 ans, 40 ans, 300 ans ou des milliards d'années comme dans la révolution culturelle chinoise. Il disait partez de sa présupposition et puis voyez ce que vous pouvez faire avec. Et ça, je pense que c'est, pour moi, ça a effectivement été quelque chose d'extrêmement important, donc tout à fait, à l'opposé de toute idée de grain de sable, tant plus que le grain de sable n'a aucune passion, de toute façon même.
Alors, pour revenir à la question des frontières, parce que finalement, il y a la question de l'égalité en démocratie, et donc de ce désir individuel qui serait sans limite, illimité, etc. Chez vous, comme le rappelait Jacques Rancière, Jean-Claude Milner, un des chapitres de votre livre s'appelle « L'Europe illimitée ». Et effectivement, pour vous, un des symptômes de la pathologie européenne ou d'une forme de renoncement de l'Europe à elle-même, renoncement à sa souveraineté, à son histoire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est aussi un renoncement, évidemment, à ses frontières. Alors, vous avez un passage assez ironique, comme ça, où vous dites que, finalement la définition historique de l'Europe n'a plus aucune pertinence, que l'esprit européen, c'est l'esprit d'une Europe qui renonce à elle-même. Et vous prenez l'exemple de la Méditerranée, de la frontière ou du pourtour méditerranéen. Tout le pourtour méditerranéen pourrait à terme se trouver inclus dans l'Euroland, comme vous l'appelez. Mare Nostrum, la rive septentrionale est acquise. Sur la rive méridionale, partons de l'Algérie. A-t-on assez compris l'intention du voyage de Chirac et l'insistance à tenir l'Algérie contre toute évidence passée et présente pour un pays arabe et pour une zone de paix civile ? On arrive à l'ensemble de l'Afrique du Nord. De l'Afrique du Nord, on passe à l'Égypte, au Bonaparte, au Lesseps, au Maspero, aux momies en tout genre. De l'Égypte à la Turquie par la mer, de la Turquie au Proche-Orient par la terre. A-t-on assez compris que proche est à prendre à la lettre et que le Liban a vocation à devenir une tête de pont de l'Euroland ? De là, qui sait ? Quand on a combiné le vieux rêve arabo-immémorial des Français au vieux rêve ottoman des Allemands, sans oublier le vieux rêve russe des Détroits, tout devrait être permis. Picrocolline ou non, passe l'ombre de Rome, une Rome du sommeil. L'Europe dort, mais le dormeur, sans se réveiller et par des mouvements paisibles, gagne progressivement de la place dans son lit.
Mais c'est très intéressant de relire ça avec le temps, parce qu'on voit la liste des échecs que l'Europe a rencontrés. Parce que je pense que ce que je décrivais, c'était effectivement le programme. Le couple franco-allemand se voyait, se percevait par le biais de l'Allemagne comme intégrant la Turquie au système que j'appelle l'Euroland, enfin le système européen. Euroland, c'est le land de l'euro, n'est-ce pas ? Avec la double origine du mot land, qui est un mot à la fois britannique, enfin anglais et allemand. Donc, il y a eu effectivement un programme où la France pouvait étendre l'espace de l'Euroland du côté des pays arabes, c'est la fameuse politique arabe du Quai d'Orsay, et l'Allemagne l'étendre du côté turc, et puis entre les deux, la fameuse question du Proche-Orient serait réglée par la coopération européenne. Il est tout à fait intéressant que rien de tout cela ne s'est passé. Ce que je décris, c'est un programme. Il ne s'est pas réalisé, mais ça ne veut pas dire que le programme n'existait pas. On peut faire et ça, d'un certain point de vue, ça va dans le sens de ce que je soutiens dans ce livre, à savoir que le programme de l'Europe démocratique, tel qu'elle l'a conçu, est un programme qui ne cesse de rencontrer ses propres échecs. Je ne vais pas énumérer tout ce qu'on nous a raconté comme programme associé à la création de l'euro. Aucune des promesses qui étaient annoncées, qu'il n'y aurait plus de crise de type de 29, que le Parlement européen deviendrait le lieu de décision fondamentale, que les rivalités nationales et notamment la rivalité franco-allemande cesseraient d'exister. Rien de tout cela ne s'est réalisé. Et rien de ce que j'énonce ici ne s'est réalisé. C'est-à-dire que, bien entendu, le programme égyptien qu'avait la France, eh bien, il s'est heurté au fait que l'Égypte a sa propre histoire et que ceux qui ont voulu renverser Moubarak l'ont peut-être fait sous la pression amicale, répondant à la pression amicale de certains pays extérieurs. Mais les pays extérieurs, en l'occurrence, c'était certainement pas l'Europe, c'était bien plutôt les États-Unis. Pour dire les choses autrement, la Méditerranée, et je reprends volontiers ce terme, est devenue très ouvertement un lieu d'affrontement entre la Russie et les États-Unis, et chaque jour nous confirme que les pays européens n'y jouent que très peu de rôle. Et quand ils jouent un rôle, ce n'est pas en tant que pays européen au sens Euroland, mais en reprenant une tradition nationale. Donc, vous avez raison de le lire avec ironie, parce que c'est une double ironie, le passage que vous lisez. Au moment où je l'écrivais, c'était un programme non seulement envisageable, mais envisagé, auquel je ne croyais pas, d'où le ton un peu, oui, mi-fille, mi-raisin, et n'y croyant pas, je me sens confirmé aujourd'hui de ne pas y avoir cru. Rien de ce qui s'est passé depuis le moment où j'écrivais, rien de ce qui s'est passé dans le monde en général et dans le monde proche de l'Europe en particulier, et en Europe même, se conforme à ce que souhaitait l'Europe dite démocratique.
Mais est-ce que, si je vous fais une toute petite relance, est-ce que vous pourriez ramasser en quelques mots à nouveau le lien que vous faites entre une Europe qui serait digne de ce nom et une Europe qui respecterait ses frontières? Parce que je disais que dans votre livre, il y a cette thèse centrale. Une des thèses centrales, c'est que l'Europe a renoncé à elle-même en renonçant à ses frontières et à une certaine conception des frontières. Puisque autant chez Jacques Rancière, on y viendra tout à l'heure, toute politique émancipatrice implique de bousculer ou de bouger les frontières, autant chez vous, toute politique est une affaire de frontières et de limites.
Concernant ma critique de l'Europe démocratique et de ce qui se présentait au moment où j'écrivais, qui se présente encore comme l'incarnation de l'Europe démocratique, à savoir l'Euroland, c'est-à-dire les pays de l'euro, on fait une petite exception pour la Grande-Bretagne, qui est malgré tout démocratique. Mais enfin, est-ce qu'elle fait partie de l'Europe? Les journaux en doutent chaque jour davantage. L'Europe démocratique, son incarnation matérielle, c'est l'Euroland. Ce que je lui reproche, ça n'est pas de renoncer aux frontières. En soi, renoncer aux frontières ou ne pas y renoncer, pour moi, c'est une question neutre. Ce que je lui reproche, c'est de renoncer aux frontières sans se poser la question de savoir ce que c'est de renoncer aux frontières quand il s'agit d'une zone du monde dont toute l'histoire a été constituée sur la notion de frontière. Autrement dit, le problème n'est pas du tout le même que le problème tel qu'il pourrait se poser aux États-Unis, où l'histoire des États-Unis est fondée sur le fait que la frontière est quelque chose de mouvant, alors que toute l'histoire de l'Europe est fondée sur le fait que la frontière est quelque chose de déterminé. Ça ne veut pas dire que je sois un fanatique, farouche, partisan des frontières. Je suis un partisan de ce qu'on pose, les questions qui se posent.
Alors, Jacques Rancière, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, vous disiez que Jean-Claude Milner, si vous aviez interpellé Jean-Claude Milner dans votre propre livre, c'est parce qu'il prêtait des arguments forts à une cause faible, ou comme vous l'aviez tout à l'heure. Alain Finkielkraut vient de publier un livre qui s'appelle « L'identité malheureuse ». D'ailleurs, malheureusement, il devait être présent à ce forum, mais après l'apparition de la chronique que Le Monde des Livres a publiée sur ce livre, il a renoncé à venir à ce forum, hélas. Et dans ce livre, justement, il reprend cette question de l'Europe qui renonce à ses frontières, de façon très différente de Jean-Claude Milner. Il écrit « L'Europe elle-même ne fait plus partie de l'Europe ». Il dit qu'elle est devenue un lien et non plus un lieu. Et il remarque que sur les billets de la monnaie unique, il remarque après Régis Debray que sur les billets de la monnaie unique, eh bien, il y a des images de ponts. Et il commente « Des ponts et non des portraits, des bâtiments ou des paysages, des ponts pour conjurer les maléfices de l'autochtonie, des ponts pour fuir les déterminations, des ponts pour remplacer les murs, des ponts pour mettre fin au règne funeste de la frontière ». Donc effectivement, il y a quelque chose dans l'air du temps très présent sur cette question d'une Europe qui renoncerait à ses frontières et qui irait à sa perte ce faisant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, si vous me permettez, d'abord, je voudrais quand même peut-être revenir un tout petit peu en arrière, oui. Si vous voulez, parce que le nœud est quand même là du côté de ce qu'on entend par illimité, si vous voulez. Hein. Bon, moi, malgré tout, le fond de mon différent, quoi, c'est quand même que je pense pas du tout que le concept de l'illimité soit clair aucunement, quoi. Bon, il y a eu un moment où la société est devenue le lieu de l'illimitation et où, par conséquent, toute la question des frontières, des États, de la politique, etc., a été bouleversée. Bon, je pense que l'illimité est un concept qui a accompagné la démocratie depuis l'origine, puisque c'est effectivement chez Platon, la démocratie, c'est le règne de l'illimité, quoi. Et l'illimité des désirs, effectivement, c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez Platon. C'est-à-dire que d'un côté, donc, je dirais que l'idée que la démocratie est quelque chose qui, de toute façon, dépasse la mesure. Et le problème, précisément, ce qui est c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que la mesure, mais on sait ce que c'est que ce qui dépasse la mesure, parce que avec la démocratie, les gens ne sont pas à la place où ils devraient être. Et en plus, je pense que même la notion d'illimitation n'est pas une notion claire non plus pour l'époque moderne, parce que lorsqu'on dit le capital, c'est l'illimitation, non, c'est pas l'illimitation, parce que le capital, c'est malgré tout. Et là, je reste quand même un peu fidèle à Marx. Quoi, le capital est un rapport au travail. Donc le capital, c'est pas l'accroissement illimité. Le capital, c'est un rapport, c'est-à-dire c'est un rapport entre des forces. Je crois qu'aussi bien dans la question de la démocratie que dans la question du capital, ce qu'il faut mettre, pour moi, malgré tout, au centre, c'est qu'on n'a pas affaire à des processus, en quelque sorte, de passage au maximum, de passage à la limite, mais à des processus qui sont des processus antagoniques. C'est-à-dire que concrètement, on peut rêver quelquefois, effectivement, si on est trader, une espèce d'enrichissement illimité, puis il y a comme un moment où ça coince, il y a un moment où tout d'un coup, on y de la dette des pauvres, mais si vraiment les pauvres deviennent trop pauvres, disons notre richesse, elle disparaît, quoi. Et aussi, je pense un peu l'Europe par rapport à ça, c'est-à-dire que peut-être que ma position est en un sens pas très loin de celle de Jean-Claude Milner, en même temps qu'elle peut être très loin, parce que moi d'une certaine façon, il dit il y avait ce grand programme, mais ça n'a pas été réalisé. Moi, je dirais plus volontiers que pour moi, je pense pas que l'Europe ait jamais eu beaucoup de programmes. C'est-à-dire que effectivement, la réalité de l'Europe reste quand même malgré tout d'abord une réalité économique, et mercantile, et que les grands programmes européens, je ne sais pas si vraiment les dirigeants européens y ont jamais cru, quoi. Et au fond, le rapport entre Europe et démocratie, pour moi, n'est pas clair non plus, parce que si démocratie existe, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose comme une instance populaire. Alors là, du coup, renvoie à la question du tout limité, des frontières, des États-nations, etc. Disons, ce qui est quand même frappant, c'est l'Europe démocratique est quand même une puissance politique. Lorsqu'il y a cette même histoire de constitution européenne, ce qui était frappant, c'est qu'on disait combien il y avait de membres, il devait y avoir de membres un peu de chaque pays dans la Constitution, mais on ne disait à aucun moment comment ils étaient nommés. C'est-à-dire, d'une certaine façon, si on dit l'Europe est démocratique, c'est quand même une démocratie paradoxale, parce que ce serait le seul gouvernement dans lequel la désignation des membres du gouvernement n'est pas indiquée dans la Constitution. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, si vous voulez, en un sens, je suis plus sceptique, en un sens que Jean-Claude Milner, dans la mesure où je ne crois pas que l'Europe ait jamais eu des grands projets. Alors, bon, par ailleurs, bon, il y a toujours les gens qui pensent que, oui, bon, les portraits, c'est mieux que les ponts, mais bon, pour moi, c'est quand même bon, de la petite polémique. C'est-à-dire que la question, vous voyez bien que la question des frontières, pour moi, aujourd'hui, c'est la question où est-ce que, justement, on peut localiser une instance, bon, une instance politique qui serait une instance populaire, qui serait une instance non étatique, quoi. Et par rapport à ça, je dirais qu'on met des billets, de toute façon, bon, sur des ponts, je pense qu'à un moment donné, on trouvera des personnalités européennes consensuelles qu'on pourra mettre sur les billets. À ce moment-là, je pense qu'elles auront leur portrait. Je pense que si on mettra, bon, on mettra Goethe, par exemple, bon, voilà, on mettra, oui, quelques grands esprits connus comme européens, et puis par ailleurs une répartition un petit peu, et puis tout, à mon avis, tout ça se passera bien. Donc je ne crois pas vraiment qu'il faille prendre très au sérieux, disons, ce genre de polémique.
Jean-Claude Milner.
Je voudrais rebondir sur quelque chose que Jacques Rancière vient de dire concernant le capital et l'illimité. Le capitalisme, plus exactement, et l'illimité. Bien entendu, c'est un rapport. Mais il me semble, à moi, que le schéma de Marx repose précisément sur le fait que le capital est fondé sur la plus-value, que la plus-value est cet élément différentiel en plus qui, lui, ne connaît pas de limite autre que la limite imposée par une conjoncture. C'est-à-dire qu'évidemment, le capitaliste ne va pas déterminer des prix de vente qui soient impossibles, qui rendent impossible son produit. Mais il va déterminer le prix de vente d'une telle manière qu'il sera toujours légèrement supérieur à la valeur exprimée en monnaie du travail. C'est le différentiel entre force de travail et travail qui est le moteur du capital. Et je suis tout à fait d'accord avec Rancière pour dire que, à la fin des fins, ça se heurte à une limite. Mais cette limite, si j'ose dire, c'est une limite réelle. Et c'est cela la contradiction structurale dont parle Marx à la fin, qui sera, comme on dit, la fin de l'histoire, mais sans l'interprétation mystique que l'on donne du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, la logique du capitalisme, qui est d'un accroissement indéfini parce qu'il est limité de l'entassement des plus-values les unes sur les autres, va se heurter à une limite réelle, qui vient, et là je reprendrai volontiers l'expression de Rancière, des corps des exploités, des opprimés. Donc effectivement, mais ce que Rancière a signalé, c'est simplement la contradiction entre la logique interne du capitalisme, qui est une logique d'illimitation, et la structuration interne de quoi ? De ce que j'appellerais le sujet des corps opprimés, qui, lui, a une limite que personne ne peut assigner sauf lui, qui est la limite du tolérable. Et cette contradiction entre l'illimité de la machine capitaliste et le caractère limité de ce qui est tolérable, c'est cela qui constitue la logique du capital et ce paradoxe extraordinaire que quelque chose qui se présente dans la préface au premier livre du Capital comme « Abandonner toute espérance » va se terminer, lorsqu'on parcourt l'ensemble du Capital, sur la promesse d'une révolution possible, d'une révolution sociale possible. Autrement dit, le manifeste du Parti communiste ne se retrouve pas intégralement dans le Capital, mais ce qui se retrouve dans le Capital du manifeste, c'est précisément le fait qu'il y a une limite réelle au tolérable. Mais dire qu'il y a limite ne signifie pas qu'il n'y ait pas de l'illimitation. C'est au contraire, si j'ose dire, ce qui donne à l'illimitation son caractère de force historique palpable. Deuxième remarque, j'avais remarqué une fois dans une correspondance que nous avions eue, Rancière et moi, la dernière correspondance que nous avons eue.
Ça date de quand ?
C'est juste avant la parution de La haine de la démocratie.
D'accord, 2001.
Oui, puisque d'ailleurs Jacques Rancière cite 2003. Cette correspondance, enfin, pas le détail, mais cite le fait qu'elle a eu lieu dans la période où ce livre, je suppose, était en gestation. Et je faisais remarquer dans cette correspondance que souvent, Jacques Rancière cite Platon à l'appui de ses propres thèses. Autrement dit, c'est très bien de trouver Platon quand c'est à l'appui de ce que dit Jacques Rancière. Mais il citera Platon quand il s'agit de dégommer un interlocuteur. Donc, dans La haine de la démocratie, il est, si je me souviens bien, question d'une certaine constitution que Platon ne nomme pas, mais qui pourrait bien être la constitution qui se rapprocherait d'une constitution démocratique, non pas au sens où Platon l'entend, mais au sens où la démocratie devrait être entendue. Dans ce cas-là, Platon sait très bien. Mais quand on trouve dans Platon l'opposition entre l'illimité et le limité, ça prouve que cette opposition n'a pas de sens. Le fait qu'une opposition se trouve chez Platon ne signifie pas forcément que cette opposition n'ait pas de sens. Ça ne prouve pas qu'elle a du sens, mais ça ne prouve pas qu'elle n'a pas de sens. Quant à Platon lui-même, il est tout à fait frappant que, dans la République tout au moins, le postulat dont part Platon, c'est que le texte écrit en petites lettres au niveau de l'individu est le même texte que le texte qui s'écrit en grosses lettres au niveau de ce qu'on peut appeler la politéia, l'ensemble institutionnel. Ça veut donc dire que Platon considère qu'il y a une correspondance entre le régime démocratique, j'emploie des termes modernes, et l'homme démocratique. Mais cela, c'est quelque chose qui signifie quoi ? Qui signifie quelque chose à quoi moi je ne crois pas, qui est l'absence de frontières, je reprends le terme du jour, du débat, l'absence de frontières entre le politique et l'individuel. De la même manière, je dirais que un grand nombre d'approches des institutions reposent sur l'idée qu'il n'y a pas de distinction, de frontière entre le système institutionnel et le type de société que l'on souhaite. Parce que l'on souhaite une société démocratique, et effectivement, et je reprends ce que Rancière avait dit au début de la première intervention, le mot démocratique est devenu le qualificatif d'un type de société, et non plus seulement d'un type d'institution. Donc, une société démocratique doit recevoir des institutions qui répondent en tant qu'institution de la manière la plus fidèle possible. Et contrairement à ce que dit Rancière, le fait, je suis comme lui, je ne crois pas aux grands projets européens, mais le fait de ne pas croire aux grands projets européens ne signifie pas qu'il n'y en ait pas eu. Les fameux pères fondateurs de l'Europe, quelqu'un comme Jacques Delors aujourd'hui, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, Alain Duhamel, Michel Barnier, ils sont traversés d'un certain nombre de grands projets. Que nous les trouvions fumeux les uns et les autres dans cette salle ou à cette table n'a aucune espèce d'importance, ça c'est notre avis personnel. Ces projets existent, ils entraînent un certain nombre de décisions. L'idée que l'adhésion à l'Europe soit ouverte pratiquement à qui en fait la demande, moyennant des conditions assez peu nettes, d'une part. Et le fait que Rancière a souligné à bon droit que dans la fameuse constitution européenne dont on nous a rebattu les oreilles, les éléments fondamentaux d'une constitution ne soient pas mentionnés, à savoir comment sont nommés ceux qui participent à la décision. Tout cela est vrai, mais cela signifie simplement que les projets sont mal fichus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de projet. Je crois qu'il y a une idéologie européenne, que cette idéologie articule un certain nombre de décisions. La critique que je lui adresse, elle est multiple, à savoir qu'elle fait comme s'il n'y avait pas de généalogie de l'idéologie européenne, comme si ça n'était pas une réponse à quoi ? À quelque chose qui s'est passé de 1933 à 1945, où il s'est agi à ce moment-là de construire l'Europe sous la forme d'une forteresse qui s'appelait Festung Europa, avec comme principe de constitution de l'Europe l'extermination d'une partie de ses peuples. On pourrait considérer que c'est à l'honneur de l'Europe démocratique d'avoir voulu rompre avec cela. Mais ce que je lui reproche, c'est que voulant rompre avec cela, elle ne pose absolument aucun des problèmes que cette rupture est amenée à soulever.
Jacques Rancière, restons bien sur la question de la frontière, si vous voulez bien. Jacques Rancière.
Oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise sur la question de la frontière?
Je voudrais que vous nous disiez, parce que finalement, depuis le début, on n'a pas eu l'occasion de le préciser, en quoi la question de la frontière est centrale chez vous, dans votre pensée. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas un philosophe politique, mais enfin, vous êtes quand même un penseur du politique. Vous avez écrit, et je vous cite, « La politique, pour moi, se joue toujours dans des questions de partage et de frontières. » Et effectivement, chez vous, moi, je vous ai beaucoup lu, eh bien, la politique pose d'emblée la question des frontières, de ce que vous appelez le partage du sensible. C'est une expression qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été beaucoup commentée, qui a beaucoup nourri la réflexion. C'est-à-dire que la politique consiste à instaurer toujours un nouveau rapport entre les mots et les choses, entre aussi ceux qui sont censés ne pas pouvoir et ceux qui sont censés pouvoir, ceux qui sont censés décider, ceux qui sont censés obéir. Donc, bref, la politique est toujours censée bouger les frontières pour instaurer une nouvelle liberté démocratique.
Bon, lorsqu'on parle de frontières en ce sens, bon, il n'est pas question des frontières géographiques ou historiques entre les États. Bon, il est question, au fond, de la frontière, qui est une frontière qui, précisément, elle, alors pour le coup, est toujours mouvante entre les formes de vie. Bon, si on revient à Platon, bon, moi, je n'utilise pas Platon quelquefois comme un repoussoir et quelquefois à mon appui. Donc, je dis, bon, Platon dit quelque chose sur la démocratie, qui nous dit quelque chose sur la démocratie. Alors après, on peut être pour, on peut être contre, mais ça, je veux dire que. Mais ça, c'est autre chose. Quoi. D'une certaine façon, je l'utilise toujours de la même manière, à savoir éclairant d'une certaine façon la question de la démocratie du politique. Quoi. Bon, alors effectivement, j'étais parti à une époque chez Platon de cette phrase toute bête qui dit que si on est à l'atelier, on ne peut pas être ailleurs parce que le travail n'attend pas. Quoi. Autrement dit, la frontière, c'est que si vous êtes quelque part, si votre travail, votre activité sociale, votre identité, votre place dans la société vous met quelque part, vous ne pouvez pas être ailleurs. Et bien sûr, l'ailleurs auquel Platon pense, c'est l'assemblée du peuple. Quoi. Ce qui m'intéresse justement, c'est que ce que dit Platon, c'est pas simplement ce que dit un sale réactionnaire qui veut empêcher les gens de vivre la démocratie. Non, ce que dit Platon au 5e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, et quelque chose qui est par ailleurs vécu par les intéressés eux-mêmes. C'est-à-dire que, moi j'ai travaillé longtemps, comme j'ai dit, sur des textes ouvriers, où justement la question est bien celle de la frontière, à savoir si on est là dans cet espace-temps qui est l'espace de l'atelier, ça veut dire qu'on est réputé ne pas pouvoir prendre, avoir une place dans d'autres lieux qui sont les lieux où l'on pense et les lieux où on décide. Donc voilà, moi ce que j'ai simplement dit, c'est que, au fond, la question de la politique d'emblée a été liée à une question de place, d'espace, de frontières qui sont jamais des frontières tracées sur le sol. Enfin, ça peut l'être quelquefois, bien sûr aussi. Mais qui sont d'abord des espèces de frontières métaphoriques, si vous appartenez à telle ou telle forme de vie, avec telle ou telle identité, vous serez là. Si vous êtes là, vous pouvez pas être ailleurs. Que si vous êtes dans la particularité du travail, vous pouvez pas être dans la généralité, dans l'universalité de la pensée qui décide. Et ainsi de suite. Donc voilà, ce que j'ai simplement dit, c'est que la politique a toujours justement été articulée à cette question qui est une question proprement de frontières, à savoir, il y a toujours eu cette espèce de tendance, enfin, il y a toujours, en tout cas, initialement, on voit bien quand même que la réflexion sur la politique, et effectivement, on pense à Platon, on pense à Aristote, et si j'en ai parlé aussi, c'est pas par espèce d'anticharisme, mais aussi parce que ça définit toujours régulièrement des positions qui sont des positions absolument contemporaine, quoi, sur la politique. On revient toujours à le bien commun, des choses comme ça. Bon, j'avais longtemps commenté ce texte incroyable d'Aristote sur la démocratie, où il dit la bonne, c'est la démocratie paysanne, parce que les paysans, ils ont à travailler, ils sont au champ, donc ils ne seront pas à l'Assemblée, donc ils ne vont pas pouvoir déranger les gens, et donc par conséquent, les gens qui sont compétents pourront faire la politique, parce qu'ils ne seront pas là.
Vous pouvez prendre un exemple d'un geste contemporain, d'une décision qui aurait été prise et que vous considérez comme politique justement parce qu'elle met en cause cette question des places et du partage du sensible, du partage de la parole.
On ne va pas entrer dans le détail de tout ce qui s'est passé autour de questions des révolutions arabes, de disons du mouvement du 15 mai bon, en Espagne, bon, de tous ces mouvements-là. Bon, mais bon, il est clair qu'on retombe sur quelque chose que j'ai, bon, sur lequel j'ai un peu insisté, oui, qui est le fait que bon, la politique se joue toujours à transformer des espaces. Et qu'en l'occurrence, bon, y a des espaces qui sont des espaces de circulation qui ont été transformés en espaces, bon, en espaces d'installation. Donc, simplement même mettre une tente effectivement dehors, bon, ça s'est fait à Madrid, ça s'est fait à Tel Aviv, ça s'est fait à New York. Bon, d'une certaine manière, on décide que là, bon, il y a un lieu du peuple, que ce lieu du peuple, il est différent du lieu du peuple que constitue le gouvernement national, et plus encore de celui que constitue bon, l'Assemblée européenne ou la Commission européenne. Bon, on redistribue les rapports, bon, les rapports entre les lieux.
Alors, je vais vous citer une nouvelle fois un passage d'un livre de Jean-Claude Milner. Donc, vous y faisiez allusion tout à l'heure, vous parliez de ce qui est tolérable pour les corps. Et vous avez publié un très joli essai qui s'appelle « Pour une politique des êtres parlants », qui est paru chez Verdier, dans lequel, justement, vous expliquez que la politique, c'est d'abord la question du corps et de sa survie. Et à un moment donné, vous dites que le politique, ou la politique, justement, c'est toute l'ambiguïté, est devenue le lieu de l'obscur et du confus, qu'on n'en sait plus du tout les limites, les frontières, etc. Elle est obscure et confuse. En fait, on ne sait même pas comment la nommer. Faut-il partir d'un adjectif ou en tirer un substantif, ou partir d'un substantif pour en tirer un adjectif ? Si l'on considère l'adjectif, est-on en droit de l'employer comme un prédicat ordinaire qui permet de délimiter clairement ce qui est politique ou ce qui ne l'est pas ? Et puis ensuite, la question des frontières, et là vous enchaînez sur toutes sortes de politiques de l'emploi, politiques de l'autruche, etc. Donc vous jouez avec les mots, avec la langue, pour montrer qu'aujourd'hui, on ne sait plus dire ce qu'est la politique et justement cerner ses limites.
J'avais été frappé quand j'ai écrit ce petit texte, ce court traité, j'avais été frappé par l'expression très courante « parler politique ». Parler politique, c'est parler de la politique, parler en politique, sur la politique. Et j'étais arrivé à la conclusion que parler politique, c'était devenu une des variantes aujourd'hui du « on n'a rien à se dire ». Une formule très belle de Raymond Devos, il est clair que nous n'avons rien à nous dire, parlons-en. Et il me semble que, une paraphrase, ce serait, il est clair que nous n'avons rien à nous dire, parlons politique. Si la politique est conçue de cette manière-là, elle est effectivement, si j'ose dire, devenue un aérosol, une sorte de diffraction qui baigne l'ensemble. Et c'est pour moi cette atmosphère d'obscurité et de confusion dont, me semble-t-il, il faudrait sortir. Une fois de plus, j'adhérerais tout à fait l'approche de Jacques Rancière sur la politique comme partage du sensible. Sauf que, à mes yeux, le partage du sensible, mais on serait peut-être d'accord, n'est pas simplement un partage des lieux. C'est aussi un partage des temps. C'est-à-dire que j'avais écrit un livre qui s'appelait Le salaire de l'idéal. Il y a un temps contraint qui est le temps de travail. Il y a un temps de repos qui est en fait déterminé par le temps de travail. Et par rapport à ces temps contraints, il y a que j'appelais bon, à ce moment-là un surtemps. Et c'est en fait dans l'espace du surtemps que se logeait la politique au sens athénien du terme. Et toute la question, et je la pose, je ne prétends pas y répondre, toute la question, ça a été de savoir si on pouvait faire du temps contraint, c'est-à-dire du temps de travail, avec sa compensation qui est le temps de repos, un temps pour la politique. D'un certain point de vue, ça a été la question même des partis ouvriers. Les partis ouvriers, certains d'entre eux, en tout cas, avaient comme ambition de faire que le moment le plus politique de leur activité de parti ne soit pas un moment extérieur au temps et au lieu de travail, mais le temps et le lieu de travail lui-même. Le problème, c'est que cette conception-là, me semble-t-il, a échoué. Aujourd'hui, l'exemple que prenait Jacques Rancière, planter une tente, délimiter un espace, c'est aussi très souvent, en tout cas dans les exemples auxquels, me semble-t-il, on peut penser, c'est aussi déterminer une temporalité, un espace de temps qui échappe au temps qui a été déterminé par les différentes autorités contraignantes, que ce soit parce que le temps du chômeur est contraint par le travail sous la forme du manque de travail. C'est un temps contraint. Le temps de celui qui meurt de faim est contraint par la faim. Mais la notion de sensible recouvre les deux aspects. Donc je ne pense pas, en tout cas c'est pas comme ça que je l'entends, m'opposer à la position de Jacques Rancière. Donc il me semble que les développements des sociétés industrielles consistent à ronger en vérité ce surtemps et à faire de ce qui pourrait apparaître comme le surtemps, en vérité, un temps de repos. Autrement dit, lorsque le temps de repos est consacré à la consommation et à la dépense, en vérité, il se réintègre au temps de travail. Il redevient du temps contraint. Et tout le problème, c'est d'aménager un surtemps. Et la question que je me pose à moi, et je répète, je ne suis pas capable d'y répondre. Est-ce que la politique se situe à l'intérieur du temps contraint ou dans le surtemps ?
Vous savez, je suis très frappé parce qu'un jour, on vient toujours à Alain Badiou, c'est parce que comme il distribue les prix, il faut le citer. Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment se fait-il que vous soyez tellement brutal dans vos textes, tellement pamphlétaire, et d'ailleurs il le reconnaissait, et avec un air tellement de mamie Nova, généreuse, extrêmement sympathique, à l'oral, doux et pédago, et clair et généreux de tout point de vue. Alors vous n'avez rien à voir avec la dame précitée. Mais enfin, je suis quand même assez frappé par le fait que les livres que vous avez publiés, les textes que vous avez publiés impliquent une forme de conflictualité assez rude entre vous, et que là, on est quand même dans un dialogue non seulement doux, mais virtueuse dans l'esquive. Oui, vous m'aviez prévenu, effectivement. Jacques Rancière.
Bon, il est clair que sur la question du temps, je suis absolument d'accord. Bon, j'ai quand même, bon, l'œuvre, le livre pour moi le plus important que j'ai écrit s'appelle La nuit des prolétaires. Il était question précisément de l'émancipation comme le temps gagné justement sur, le couple travail et repos. Et bon, et on sait à quel point c'est au cœur de la politique, la question du loisir. Ben effectivement, on peut dire que la question de l'émancipation, c'est sortir en quelque sorte de l'opposition entre les hommes de loisir et puis les hommes qui font travail-repos. Au fond, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement la question de fond. À qui appartient ce temps de travail ? Je pense qu'il y a là-dessus des réponses qui, à mon avis, sont des réponses qui reposent sur des présupposés. C'est-à-dire que l'idée que les gens forcément dépensent leur temps de travail en dépenses et en consommation, à mon avis, c'est précisément une présupposition sur l'individu démocratique comme celui qui, de toute façon, n'a rien d'autre à faire, le malheureux, que d'aller au supermarché. Il revient à chacun de ne pas vendre son temps de cerveau disponible. D'un autre côté, de toute façon, on en vend toujours. Parce que, qu'est-ce que c'est que le travail si on vend du temps de cerveau disponible ? Donc, je veux dire que, il y a des moments où on surévalue, en quelque sorte, toujours, comme ce que je comprends appeler la puissance de l'ennemi. Non, après tout, on peut là. Il y avait ce fameux slogan de 68 qui était ouvrez les yeux, fermez la télé. C'est-à-dire qu'on peut dire, on peut fermer la télé, on peut avoir un autre usage de la télé, on peut ne pas vendre. Je veux dire que, je pense qu'il ne faut pas présupposer l'usage que les gens font de leur temps, et on voit bien qu'actuellement, malgré tout, tout ce qui s'est, beaucoup de choses se sont jouées justement autour de font des questions de disons, du travail, un peu du travail, pas du travail parcellaire, du chômage, toute la question de tous ces gens qui ont été qui ont une formation et qui n'ont pas le travail correspondant à leur formation. Autrement dit, il y a effectivement toute une série de trous dans disons la régularité du travail, qui donne lieu aussi que le fois à des formes en quelque sorte de reconquête de liberté. Et je pense que c'est effectivement un peu ça quand même que on a aperçu dans pas mal de mouvements politiques récents qui ont été menés en grande partie précisément par des gens qui sont soit au chômage, soit au temps partiel ou dans des types de rapport au temps de cet ordre.
C'était le Forum Le Monde Le Mans, avec aujourd'hui Jean-Claude Milner et Jacques Rancière. Débat animé par Jean Birnbaum, prise de son Georges Thau, réalisation Isabelle Huet.